Salut à tous, on est sur Russie.fr. Je suis avec Benoît Lavoisier, acteur professionnel et poète, qui va nous parler un petit peu de son parcours, de ses projets et de son rapport en tant qu'acteur avec la Russie. Salut Benoît.
Salut Thomas.
Comment ça va ?
Bah très bien, parler de la Russie c'est bien.
Alors tu as joué notamment dans Messrine.
Ouais, au cinéma.
Tu as joué un certain nombre de pièces en France, au Canada, en Russie et dans différents pays.
Ouais.
Tu as suivi un cursus de formation d'acteur assez complet et depuis des années, où souvent les Russes avaient un rôle assez important. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts, donc premier contact avec les Russes ?
Ça s'est passé, j'avais 20 ans et j'habitais au Canada et je suis tombé dans un théâtre qui était dirigé par l'assistant de Jerzy Grotowski, un Polonais.
Alors Grotowski, c'est qui ?
Grotowski, ça a été un homme très très important dans l'histoire du théâtre. C'est le premier homme qui a commencé à élaborer tout l'appareil de l'acteur de façon très précise sur la voix. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec eux sur Dostoïevski.
D'accord.
Sur Crime et Châtiment. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours été influencé et attiré par ce monde qui était décrit par Dostoïevski. Ayant lu toutes les œuvres, j'ai été passionné justement par tout ce monde-là que Dostoïevski décrivait. Et je me suis passionné pour toute la littérature russe.
D'accord. Donc Grotowski, c'est ton premier contact ?
Voilà. Grâce à eux, j'ai commencé à rentrer dans la Russie.
C'est une école, c'est...
Grotowski, c'est, on peut appeler ça, oui, c'était une école en Pologne. Et cet assistant a monté une école au Canada. Grotowski a été un homme... capital dans l'histoire du théâtre mondial. C'est de lui qui est sorti après le Living Theater. Tout le théâtre mondial depuis les années 60 a été influencé par les travaux de Jerzy Grotowski.
D'accord, qu'on appelle donc théâtre de la recherche, c'est ça ?
Voilà, c'est un théâtre de recherche sur comment fonctionne un acteur, comment fonctionnent les impulsions des acteurs, comment on crée un acteur, comment il a une voix, comment il bouge sur la scène. Quels sont les blocages qu'il a pour être en contact avec son énergie vitale, comme il dit.
Et donc voilà, tu as évolué avec l'influence du Grotowski. Mm-hmm. Et ensuite, alors, ce qui s'est passé, tu as rencontré, je crois, Brooke.
Après, je suis allé en France et j'ai travaillé avec les acteurs de Peter Brook, qui étaient aussi en contact avec les gens de Grotowski. Notamment, il y avait un acteur qui était chez Peter Brook, qui s'appelait Shislak.
D'accord.
Qui était l'acteur principal de Grotowski. Et moi, je suivais les ateliers là-bas avec Bruce Meyers, Yoshi Oida.
D'accord.
Donc, tous ces gens-là étaient influencés par, bien sûr, le travail de Grotowski, le travail russe aussi. Parce que l'approche du théâtre de Peter Brook, c'est le travail sur l'improvisation. Et à la base, qui a inventé ce système-là, c'est bien sûr Stanislas.
D'accord. On y reviendra, je pense. Tout à l'heure. Villégier, tu m'as parlé de Villégier.
Oui, après avoir suivi Grotowski, Peter Brook et tout, en fait, je me suis passionné pour le théâtre classique français.
Ouais.
Car j'adorais la langue, je trouvais ça beau, je trouvais ça intéressant. Et j'ai commencé à travailler avec les acteurs de Villégier. Christian Rist, Marc Samit. Mmh. Christian Rist, qui a eu un atelier de recherche ici à Paris, dans le 20e, qui a formé les Sabine Audepin, les Pascal Grégory, tous ces gens-là. Et ça, c'est un travail qui est beaucoup plus sur la précision de la langue, qui fait partie de la grande école française sur le son fait sens.
D'accord.
C'est tout... le travail sur les syllabes et la beauté, la précision de la langue.
Ok. Et donc, tu as continué ton parcours, tu as voyagé de pays.
Après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je m'intéressais beaucoup au cinéma et tout, j'ai tourné dans un film. Et il y avait un acteur qui m'a vu jouer dans ce film-là, qui m'a dit, tiens, mais il faut absolument travailler avec Anatoly Vassiliev.
D'accord, ouais.
Qui est un grand maître russe.
Mondialement connu.
Mondialement connu, qui a été célèbre, en fait, tout d'abord par le Cerceau en 1985, et six personnages en quête d'auteur de Pirandello. Et ce spectacle, en fait, il a révolutionné le théâtre mondial.
En quoi ?
Il a révolutionné le théâtre mondial parce que c'était la première fois en fait qu'on arrivait probablement à jouer cette pièce.
D'accord.
Et lui avait été formé par Maria Knebel, tout le système de Stanislavski bien sûr. Mm-hmm. Et il a réussi à inventer un système qui s'appelle le système des jeux ludiques, ouais. Qui est très proche du théâtre grec.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'il a mélangé le théâtre des idées en fait. Avec Stanislavski, il a inventé une espèce de système dont lui il appelle le système de jeu ludique.
D'accord.
Donc c'est un système un peu complexe, mais en gros, pour être tout à fait simple, c'est un système qui nous permet d'avoir de la distance par rapport à ce que l'on dit, par rapport à ce que l'on vit, de rester tout le temps joyeux. Et cette rencontre a été absolument capitale parce que dans le théâtre, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend de qui on est. On a tendance à avoir une grande identification dans les personnages, les rôles et tout ça. Mmh. Et Vassiliev, qui est un petit peu un comique, m'a aidé et m'a permis justement d'avoir beaucoup de distance sur l'art, tout simplement, et à comprendre qu'est-ce que c'était que l'art et qu'est-ce que c'était que avoir une perspective,
ouais. Mmh.
En tant qu'artiste et en tant que personne.
D'accord.
Suite à ça, j'ai été engagé par des gens qui étaient russes ou formés par des russes. Et j'ai découvert le monde de Gogol.
Ouais. Mmh.
Le monde de Gogol, le monde de Dostoïevski, bien sûr. Ces petites pièces qui sont absolument incroyables, qui sont beaucoup plus simples à comprendre. D'ailleurs, pour comprendre les Russes, il faut beaucoup mieux, à mon avis, lire les petites nouvelles et les petits livres qu'il a écrits. Que les crimes et châtiments et les démons, parce que c'est là où on a l'accès à la Russie, quoi. Qui est un monde qui est la Russie en fait. Il y a deux pays en Russie.
Ouais.
Il y a ce que les gens vivent tous les jours. C'est un grand pays immense, un peu gris. Et il y a une autre vie qui est la poésie, et la littérature,
l'imaginaire.
Et l'imaginaire. C'est-à-dire que les Russes vivent dans leur cuisine, par exemple, avec Bulgakov, Lermontov, Pushkin.
Tout à fait.
Donc, ce sont des gens qui ont deux vies, qui ont une vie intérieure qui, moi, me touche énormément parce qu'elle est. Sont des gens très cultivés. Et aussi, en même temps, avec une espèce de grain de folie. Quoi.
Ouais. D'accord. Et donc, il y a un moment où tu as été amené à jouer Marina Tsvetaeva à Moscou.
Ça, c'était une expérience unique, parce que moi, ça faisait depuis 20 ans que mon rêve, ça avait été d'aller en Russie.
Ouais.
À 20 ans, je voulais m'inscrire au GITIS. Mais à l'époque, c'était un peu compliqué d'aller au GITIS.
Au GITIS, juste pour ceux qui nous écoutent.
Le GITIS, c'est la plus grande école de théâtre au monde.
D'accord.
Où c'était. Mais en tout cas, pour moi, il y a deux grands peuples qui ont formé des acteurs dans le monde. C'est le GITIS et Londres. La Royal Shakespeare Company. Ces deux endroits ont vraiment... Pour vous donner un exemple, un acteur en Russie, il est formé au bout de... Ouais, 7 ans, 10 ans.
D'accord. Donc c'est vraiment des études sérieuses.
En France, au bout de... 2 mois, 6 mois, 1 an, on est considéré comme un acteur, alors qu'en Russie ou en Angleterre, c'est pas comme ça.
D'accord.
On nous apprend à danser, on nous apprend à... Donc c'est des études qui sont beaucoup plus scientifiques et qui n'y sont pas liées à uniquement le talent spontané, quoi.
Et comment est-ce que tu es parti en Russie pour jouer une pièce à Moscou? C'est quand même une aventure en soi.
En fait, il y avait un pédagogue chez Anatoly Vassiliev qui s'appelle Mario Bucciarelli, un Italien qui habite en Suisse,
ouais,
qui a été formé par le théâtre d'art à Moscou, théâtre dirigé par Anatoly Vassiliev, et qui m'a vu et qui m'a engagé d'abord sur un spectacle, puis deux spectacles.
Ok.
Et après, cette personne-là, avec beaucoup d'intelligence, a construit une troupe avec des acteurs russes,
ouais,
et des acteurs francophones. Et donc, il a monté un spectacle sur Marina Tsvetaeva, qui s'appelle Mon Pushkin, et où on avait intercalé des scènes de Pushkin, la Dame de Pique, par exemple.
D'accord.
Et des poèmes. Ouais. Et donc, ces poèmes étaient... ou Eugène Onéguine.
Ouais.
Et ces poèmes, en fait, et ces bouts de scène étaient faits simultanément, et en français, et en russe.
Sur scène à Moscou.
Sur scène à Moscou. On l'a présenté d'abord en Europe, et après on est allé à Moscou, au théâtre de Vassiliev,
ouais,
à Povarskaya.
Ok.
Et là, on a joué en Russie, en français, et en russe.
D'accord.
Et ça, c'était absolument incroyable parce que non seulement les Russes connaissaient le texte en russe,
ouais,
mais ils connaissaient aussi le texte en français.
Ils connaissaient aussi le texte en français. C'est, voilà. La Russie, quoi.
Voilà. Ça, c'était absolument hallucinant. Quoi. Moi, je disais des poèmes et tout, donc en français, les gens comprenaient exactement. Ah, kalasho, kalasho, ching, kalasho.
Donc, tu as eu un public qui a vraiment très bien reçu le spectacle et qui a pu apprécier effectivement.
Oui, c'était un petit peu comme un rêve qui arrivait, c'est-à-dire pour un acteur aller jouer en Russie, c'est un petit peu comme la Mecque du théâtre, surtout chez Anatoly Vassiliev qui est un petit peu, on peut dire, l'icône mondiale du théâtre de recherche actuellement, quoi, qui est encore en vie et tout. Donc mais ce qui est le plus troublant et le plus intéressant, c'est que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'il faut voir que la Russie, c'est un pays qui est tellement grand.
Ouais.
Donc tout est grand. Les sentiments sont grands, les gens sont grands. Les désespoirs sont grands, les folies sont grandes, les possibilités sont grandes, tout est grand. Et surtout, il y a une notion que moi j'ai découvert grâce à la Russie, et grâce à leurs écrivains, et grâce à leurs pédagogues surtout, c'est que tout est possible.
Tout est possible en Russie.
Tout est possible en Russie. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Nicolas Gogol qui résume à peu près ça, qui dit « De telles choses arrivent rarement, mais arrivent ».
Ouais.
Mais cela arrive. C'est-à-dire que c'est un pays où effectivement les chiens peuvent écrire des lettres.
Ouais.
C'est un pays où on peut perdre son nez en se rasant le matin. C'est un pays où on vend des âmes.
Ouais.
Donc c'est le pays de Pushkin, quoi. Et c'est très intéressant le rapport entre la Russie et la France. Moi, je suis un passionné de Alexander Pushkin.
Ouais.
Qui a été, je sais pas, moi, faut imaginer, le gars, il a eu 300 femmes.
Ouais.
Il passait son temps soit à cheval, à se battre en duel, et le soir, il écrivait des poèmes, il les brûlait, 80% il les brûlait.
Et il est mort très jeune.
Et il est mort très jeune dans un duel avec contre un Français.
C'est un Français qui a tué Pushkin.
Dantès.
Ça, c'est pas très. Enfin, c'est l'histoire, c'est comme ça.
C'est pas très cool. C'est pas très cool. Mais en même temps, c'est intéressant l'intérêt des Russes aussi pour les Français.
Mmh.
Parce que, par exemple...
Ils nous en veulent pas spécialement, en fait.
Non, pas du tout. Ce sont des gens qui aiment beaucoup les Français parce que...
Ouais.
C'est un petit peu ce dernier peuple où il y a un petit peu des gens érudits et cultivés. Et il y a un lien toujours avec cette espèce de grand pays qui est la Russie. Ils aiment la France. Et en fait, si on écoute, si on aime les Russes, il y a une, il y a quelque chose qui est complètement incroyable, c'est par rapport à la langue.
Ouais.
Par exemple, le français, il est souvent très éduqué, très formaté. Et en même temps, il est peut-être plus sensuel, plus, peut-être plus, pas plus élégant, mais plus raffiné. Alors que le russe, il est peut-être plus brutal. Mmh. Et en même temps, ce sont deux choses qui s'opposent, et en même temps, ce sont deux choses qui sont nécessaires.
Qui se complètent peut-être ?
Qui se complètent,
si, si.
Exactement. Il ne faut pas oublier que la Russie, elle nous apprend quelque chose. C'est que c'est une espèce de grand pays. Ils viennent en France. Anatoly Vassiliev, il vient à Paris. Il a fait des mises en scène ici. Il a monté une école ici de mise en scène. Mmh. Peut-être que justement, entre nos deux peuples, il y a des similitudes. Mmh. Oui, en tout cas, il y a des besoins. Le plus grand, pour moi, un des plus grands hommes de théâtre français, Vitez, il était tellement influencé justement par la Russie.
Ouais.
Tous les grands pédagogues, les grands metteurs en scène ont été influencés par la Russie. Et surtout, si on est touché par le... Si on arrive à trouver la clé dans les textes, dans les poèmes et dans cette littérature, on peut apprendre beaucoup sur soi-même.
Ouais.
Mmh. On peut apprendre beaucoup sur soi-même, sur la vie, sur les sentiments, la psychologie. Freud disait que Dostoïevski, c'était le plus grand des psychologues. Quoi.
D'accord, oui.
Mmh. Dostoïevski, il a été en prison, il a été.
Ouais.
On peut apprendre à être libre, quoi. Que ce soit en France, ou en Russie, ou au Canada, ou en Italie. Dans le fond, le but, c'est quand même d'apprendre à être libre, d'apprendre à être en contact avec ce qui est nous-mêmes vraiment.
Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté, tout le monde y a droit, mais en même temps, ça s'apprend et c'est pas si facile.
C'est pas si facile, et un pays comme la Russie peut nous apprendre ça, parce que tout est grand.
Ouais.
Comme c'est grand, on comprend mieux.
D'accord. Ouais.
On comprend mieux, tout est disproportionné, les forêts sont grandes. En plus, moi je venais du Canada.
Ouais.
Donc,
Canada c'est grand aussi, mais là du coup...
C'est grand aussi, mais culturellement ça n'a absolument rien à voir.
Ouais.
Ouais. Les Russes par exemple... Moi, m'ont appris un truc absolument incroyable, c'est que l'être humain n'est pas... C'est pas à l'être humain de juger l'être humain.
Ouais.
C'est pas à lui de se juger lui-même.
Mm-hmm.
Tu vois ? C'est à quelqu'un d'autre, alors qu'on croit en Dieu ou pas, on s'en fout. Mais
ah, c'est le fameux « et attaque ».
Et attaque. Et attaque. C'est pas... L'être humain, il vit... il a des défauts, peut-être qu'il a été meurtrier, peut-être que comme Raskolnikov, il a tué deux personnes,
ouais.
Mais, et alors, ses actions ne font pas partie, ne sont pas que lui-même, ne le limitent pas.
D'accord.
Et ça, c'est russe.
Et total, les choses sont telles qu'elles sont.
C'est comme ça.
On n'y peut rien, il faut les prendre telles qu'elles sont.
Et les choses, elles sont comme ça. Ouais. Des fois, les Européens, ils cherchent des explications là où il n'y a pas d'explication.
Mmh. Mmh. On réfléchit beaucoup chez nous, trop.
Ben, c'est Descartes.
Ouais. Ouais.
Alors, on a besoin de Descartes, mais on a besoin aussi de ne pas comprendre, quoi.
Alors que les Russes sont très, très spontanés, si je ne me trompe pas. Ils réfléchissent moins, enfin ils savent agir sans trop réfléchir des fois, et c'est par rapport au travail d'acteur, c'est un aspect essentiel.
Bah, un acteur, Meyerhold ou Stanislavski et d'autres disaient que un acteur, le but d'un acteur ou d'un metteur en scène, c'est de travailler sur l'excitabilité.
Ouais.
Si un acteur n'est pas excitable, excité
dans le sens quoi, se mettre en vie,
Être en vie, c'est-à-dire être en contact avec la vie. Mmh. Et la vie, elle n'est pas forcément propre, elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément lisse, elle ne se voit pas forcément, ouais. Elle ne se comprend pas forcément avec l'intelligence.
Alors tu parlais de meilleur rôle de Stanislavski. Stanislavski, c'est l'un des pères du théâtre mondial, on peut dire, quelque part. Enfin, en tout cas, c'est un très grand dans l'histoire du théâtre mondial. A priori, il a laissé derrière lui une œuvre complexe, traitée, retraitée, déformée. Et tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi sur Stanislavski, à commencer par la grande école américaine, l'Actor Studio.
Par exemple.
Et c'est qui pour toi Stanislavski ?
Stanislavski, c'est un des premiers grands hommes de théâtre qui a théorisé sur l'acteur,
ouais.
Sur arriver à définir qu'est-ce qu'un acteur à l'époque où il était au théâtre d'art avec Tchekhov, Meyerhold. C'est quoi un acteur ? Qu'est-ce que ça veut dire être un acteur ? Qu'est-ce que ça veut dire jouer quelque chose ? Et comment on joue quelque chose ? Ouais. Comment on joue une scène ? Comment on prépare une scène ? Qu'est-ce que fait concrètement un acteur sur une scène ? Mmh. Et aujourd'hui, des fois, j'entends, oui, il faut être belle, il faut être beau, il faut avoir du charisme, oui, dire les phrases comme ça. Non, le théâtre, ça peut être une science aussi.
D'accord.
Un petit peu comme la médecine. Et Stanislavski a été un des premiers à élaborer un système là-dessus. Et là où Stanislavski a été déformé, c'est que quand vers 1910, Freud est arrivé, toutes les théories de Freud sont arrivées, ils se sont engouffrés à l'intérieur de Stanislavski. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à faire du théâtre, du cinéma, qui dans le fond étaient là pour se soigner. Et donc il y a eu plein de dérives avec Stanislavski et la psychanalyse.
Ouais, d'accord.
Alors que dans le fond, Stanislavski ne parlait, et Meyerhold, ils n'ont parlé que d'action. Il faut lire Meyerhold parce que c'était vraiment intéressant justement sur les actions.
Meyerhold, juste pour préciser, c'est un acteur russe, il a un nom.
C'est un acteur russe, c'est un collaborateur de Stanislavski.
Il a un nom un peu anglophone, mais c'est un acteur russe.
C'est un acteur russe qui a été théoricien, qui a travaillé avec Anton Tchekhov et Stanislavski, et qui à un moment donné se sont séparés. Mais Stanislavski et Meyerhold, ils ont établi des règles pour dire à l'acteur, non, ce sont des actions que vous faites. Mm-hmm. C'est-à-dire que, par exemple, l'acteur ressent des sentiments, mais il y a un personnage dans une pièce ou dans un film, mais il ne devient pas le personnage.
Ouais.
Il joue avec le personnage. Donc, ce n'est pas qu'il imite le personnage. L'acteur, c'est une personne qui s'appelle X ou Y. Et il joue avec ce personnage. Et il est touché par ce personnage. Mais ce qu'on nous demande, c'est que c'est le public qui doit être touché. Mmh. Il faut faire très très attention à toutes ces dérives-là. Bon, au début de l'Acteur Studio, encore, ça allait. Mais après, de plus en plus, c'est devenu comme une espèce de thérapie. Et depuis 50 ans, 60 ans, le théâtre a été, et l'art mondial, en fait, a été tué et gangréné par la thérapie.
D'accord.
Parce qu'on vient, parce qu'on est malheureux. Mais ça n'a rien à voir avec le théâtre.
C'est plus le même but qui est poursuivi à ce moment-là, forcément.
Non, parce que le but que Stanislavski, Meyerhold, Vassiliev, Grotowski, Peter Brook, c'est l'art. C'est-à-dire que l'art, c'est un objet. Et c'est un acte, c'est une action. Et c'est un acte généreux, même, on peut dire, altruiste, mm-hmm. pour le public. Et des fois, le public... Oscar Wilde, il a une notion qui dit que la vérité est dans celui qui regarde.
Ouais.
Donc, c'est le public qui regarde. Mm-hmm. Et Meyerhold et Stanislavski, quand on regarde très précisément, dans le fond, on cherche à trouver les actions des personnages.
D'accord.
Et ça, et la distance entre l'acteur et le personnage. Les Russes ont une très belle image là-dessus, c'est-à-dire que c'est comme si on regardait le personnage dans un masque. Voilà, c'est comme si le personnage fait un masque et nous on regardait avec ses yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il boit? C'est pas forcément Benoît qui boit, non, comment lui il boit?
Ouais.
Et ça évite justement le manque de distance et le fait que le rôle soit trop proche. Et si on regarde dans l'histoire du cinéma, ou si on regarde dans l'histoire même de certains acteurs connus qui se sont assimilés à leur rôle, c'est à cause de ça.
D'accord. Très intéressant. Tu as quelques projets en cours, peut-être liés, peut-être pas.
C'est totalement lié. C'est totalement lié parce que je suis né en France, j'ai vécu 15 ans au Canada, mais mon âme et mon imaginaire, elle est complètement russe et polonaise. Quoi.
Ouais. Tu me disais que tout cet apprentissage, en fait, t'avais appris à acquérir plus de liberté.
Plus de liberté et surtout grâce aux Russes, j'ai appris à
repousser tes propres limites.
À fabriquer une méthode.
Ouais.
C'est-à-dire à ce que ça soit beaucoup plus précis, que mon travail soit beaucoup plus précis, non pas lié uniquement à l'intuition, pas lié uniquement au sentiment, mais lié à l'intelligence, à la création d'un objet. Et c'est pour ça que moi j'écris des poèmes et j'écris des textes, de la prose depuis longtemps. Et là, actuellement, je travaille sur des projets de cinéma où j'écris des scénarios pour monter un film. Et sans cet apprentissage que j'ai eu, je ne pourrais pas le faire. Je ne sais pas si mon travail sera intéressant ou pas, c'est le public qui dira.
Ok. Bah écoute Benoît, je te remercie pour cet échange très, très riche et très enrichissant. J'ai envie de poser une dernière question avant de conclure. Je voulais te demander, la Russie, donc c'est un pays, je te demande même pas qui te fait rêver, ça paraît évident d'après ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la Russie qui te manque, que tu aimerais voir plus, entendre plus, y avait une Russie, pas idéale, mais un peu plus, qui te fasse encore plus rêver, ce serait quoi?
Ce qui nous manque, c'est urgent. Moi, je le vois tous les jours là, dans ma vie concrète.
Ouais.
C'est l'exubérance.
D'accord.
La chaleur.
Ouais.
Alors, peut-être qu'en Russie, c'est tellement extrême qu'après, il y a des gens, ça peut paraître fatigant. Mais dans le fond, là, c'est un choix philosophique. C'est qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Moi, je pense que je préfère vivre de passion, de chaleur humaine, d'exubérance, de fatigue. Avoir un chat qui parse et avoir des chiens qui écrivent des lettres, je ne sais pas. Mais surtout, pas d'ignorance.
Ok.
Pas d'ignorance. Et le monde meurt à cause de ça, à cause de confort, à cause de manque de chaleur.
De spontanéité, peut-être.
De spontanéité, c'est-à-dire de réserve, comme disait Jacques Brel. Il est temps de prendre des risques. Parce que le jour où vous mourrez, vous allez prendre quoi comme risque? Vous serez déjà mort. Ici, en France, on est dans un pays où j'ai l'impression que tout le monde a peur de tout. Des loups, il n'y a pas de loups. Ce qui serait beau, c'est que la Russie ait moins de difficultés économiques. Mais c'est très complexe, la Russie, parce que pour gouverner un pays comme ça, comment vous faites?
Très bonne question.
comment vous faites? C'est un pays, la moitié des Russes sont divisés entre être Grignov ou Pougatchov.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le russe...
Grignov et Pougatchov, c'est deux personnages principaux de la Dame de Pique.
Ouais.
Grignov, c'est un soldat, un beau gars, généreux, fort. En gros, qui défend la veuve et l'orphelin.
Ouais.
Pougatchov, c'est l'inverse. Il tue tout le monde. Il a été guillotiné sur la place Rouge à Moscou.
Mmh.
Et la Russie, c'est ça. C'est Grignov et Pougatchov.
Ok.
La moitié qui voudrait être le plus salaud, le plus meurtrier, ouais. Et l'autre. Mais les deux se ressemblent, en fait. Mais sans ça, les Chinois parlent du yin et du yang. C'est pareil.
Donc les Russes ont leur yin et leur yang.
Voilà.
Et le tout forme un tout.
Un ensemble.
Bah écoute, merci. Je pense que ça fait une très belle conclusion. Je te souhaite le meilleur pour la suite et pour tous tes projets. Et écoute, Benoît, merci.
Merci à toi, Thomas.